Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, bonjour. Une émission consacrée à la parution pour la première fois dans une traduction française de l'ensemble des 24 homélies pour les 12 fêtes majeures de l'année de Saint Grégoire Palamas, dont l'Église orthodoxe célèbre en ce jour la mémoire. Le livre avec les homélies de Palamas vient de paraître dans la collection Patrimoine orthodoxe aux éditions Lis et Parle. Et pour le présenter, nous recevons Jérôme Clerc, maître de conférences à Sorbonne Université, responsable de l'introduction, de la traduction et de l'annotation des textes de Palamas. Jérôme Clerc, vous êtes ethnomusicologue, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques. Cet ouvrage vient combler une lacune dans la bibliographie française, puisque si plusieurs textes dogmatiques de Palamas avaient déjà été traduits en français, l'ensemble de ses homélies ne l'avait pas été. Commençons donc par quelques mots sur la genèse de ce livre.
Bonjour. Alors la genèse de ce livre, elle remonte à assez longtemps, puisque j'avais fait dans mes études ma première formation, qui était les lettres classiques. Donc j'avais fait un travail sur les deux homélies sur la transfiguration. C'était ma maîtrise de lettres classiques. Et il y a eu quand même une première édition de 12 homélies qui avait été faite chez IMCA Press. Des fêtes également, les fêtes majeures. Traduction qui était sans doute assez maladroite. J'étais quand même très jeune à l'époque et j'ai décidé de m'y remettre et de reprendre ces anciennes traductions en y adjoignant 12 autres homélies, donc pour les mêmes fêtes majeures, ce qu'on appelle le dodécaorto, le cycle des 12 fêtes.
Qui commence par la nativité de la Mère de Dieu, donc en septembre, et qui finit par la dormition de la Mère de Dieu le 15 août, puisque l'année ecclésiastique commence le 1er septembre. Vous avez reçu des conseils et puis des gens très importants dans le monde orthodoxe en France qui vous ont poussé sur cette voie.
Alors en effet, parce que à l'époque, donc j'étais un petit peu en recherche de textes, en fait, et de littérature byzantine et théologique, si possible, parce que j'étais très, très passionné par tout ça. Et c'est donc à la fois Olivier Clément et peut-être plus encore le père Boris Bobrinskoy qui m'avait dit d'aller voir justement du côté des homélies de Saint Grégoire Palamas. Bon, d'une part parce qu'elles n'étaient pas tellement étudiées. On s'est toujours beaucoup plus focalisé sur les écrits polémiques ou liés à ce qu'on a appelé la controverse hésychaste. Mais finalement, ces homélies donc avaient cet avantage de ne pas être marqué, on va dire, par cet aspect polémique et dogmatique d'ailleurs aussi, mais d'être vraiment les textes d'un pasteur qui s'adresse à son peuple et qui reprend l'exégèse des Écritures, etc., etc., avec une parole enseignante, en fait. Et ça, c'était évidemment passionnant.
Donc, Palamas exégète, Palamas pasteur. Il a été archevêque de Thessalonique. Alors, bon, tout ça appelle quand même un retour, à l'histoire du XIVe siècle et le contexte dans lequel Palamas a vécu, qui est un contexte extrêmement
troublé
et violent parfois. Il fait partie de ça sans le vouloir et son élection est directement liée aux événements politiques de l'époque, évidemment, et puis la difficulté d'être installé comme archevêque. Alors, on va reprendre peut-être, si vous voulez, un peu sa vie.
Oui, surtout que son élection comme archevêque de Thessalonique, finalement, intervient tard dans sa vie. Donc, en fait, sa vie, je pourrais dire qu'elle est, en fait, surtout divisée en deux, on va dire. C'est-à-dire, d'une part, la vie contemplative jusqu'à environ l'âge de 40 ans, en fait, il reste dans les monastères ou dans les ermitages. Bon, il est obligé déjà de fuir un moment le Mont Athos, puis par ailleurs, il revient ensuite. Il y a eu plusieurs déjà, disons, circonstances historiques qui l'ont un petit peu mis en mouvement, on va dire. Mais la première partie de sa vie, jusqu'à à peu près 40 ans, est profondément contemplative et érémitique d'ailleurs, en grande partie. Puis il descend dans l'arène, si on veut, des controverses, puisque il se retrouve un peu par les circonstances finalement obligé d'intervenir pour rappeler certaines vérités, on va dire, ou contenus d'expérience. Et ça, c'est une période alors extrêmement troublée de sa vie, puisqu'il s'affronte à des forces contraires, qui même d'ailleurs, pendant un temps, il est excommunié, donc ça va très loin en fait, hein. Et puis, bien sûr, il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de réhabilitation, enfin, je ne sais pas comment l'appeler exactement, mais donc, il se retrouve pour les 10 dernières années, en fait, de sa vie, archevêque de Thessalonique. Plus cet épisode tout à fait étonnant, où il se fait prendre par un bateau turc pour se faire emmener, en fait, en Asie mineure, déjà sous domination, on va dire, c'est les premiers Ottomans, et dont Palamas, en fait, nous restitue par des lettres à son église, une description tout à fait intéressante de cette première époque, si vous voulez, de domination turque, enfin des chrétiens vivant sous cette domination, voilà. C'est tout à fait étonnant comme destin, hein, puisque je pourrais dire que ce dernier épisode a une dimension prophétique, en fait, tout à fait impressionnante. Comme s'il avait fait une sorte de... Vous voyez, il y a une synthèse extraordinaire, puisque c'est un homme de synthèse, alors au sens théologique, on pourrait dire, de l'héritage des pères de l'Église. C'est aussi un homme de synthèse, je pourrais dire, dans l'histoire, puisqu'il a à la fois cette profonde vie spirituelle et donc sans doute une expérience, enfin qu'on pourrait dire mystique, certainement très forte, et ensuite l'affrontement du monde dans toute sa cruauté parfois, et à la fin, effectivement, cette espèce de vision finalement de l'avenir, de ce qu'allait devenir le futur empire ottoman finalement.
Un mot peut-être aussi sur les icasmes, parce qu'évidemment, c'est la figure centrale de ce qui a été... l'histoire a retenu comme la querelle hésicaste. Et il y a des gens très importants, d'ailleurs, qui lui répondent à l'époque, des grands érudits, etc. Et en fait, c'est sa théologie qui n'est que l'explication nouvelle des bases mises dans la théologie depuis très longtemps. Hein. Donc, qu'en est-il, au fait ?
C'est un peu difficile de répondre en peu de temps parce que c'est quand même une grande affaire. Alors, je voudrais quand même préciser qu'il en est très peu question réellement dans les textes, sauf qu'il y a des textes où on voit une sorte de description de ce qu'est la vie hésicaste. Alors, bon, je rappelle, le mot lui-même qui paraît un peu étrange comme ça, c'est hésychia en grec qui veut dire la tranquillité, la paix, si
la quiétude.
La quiétude, voilà. Alors parfois on dit qu'il faut pas traduire quiétude parce qu'après les gens pensent au quiétisme chez nous et donc c'est comme si on pouvait traduire hésychasme par quiétisme qui n'est pas le cas, hein. Mais bon, voilà. Donc l'idée est tout simple en fait, on pourrait dire, c'est de se mettre dans cet état de tranquillité pour faire surgir l'expérience de la prière et qu'on appelle aussi prière pure, c'est-à-dire une prière qui est vraiment délivrée des soucis, hein, du monde, enfin, et des pensées qui viennent frapper tout le temps à la porte de l'esprit. Voilà, donc l'hésychia, c'est d'abord la condition, on pourrait dire, de naissance, enfin, dans laquelle peut naître cette prière pure. Et bien sûr, cette prière pure n'existe pas comme ça pour elle-même simplement, puisque dans cette pratique de l'hésychasme, le fruit qui vient... évidemment, toujours de manière imprévue, si vous voulez. Le fruit, c'est la grâce divine. Donc, très concrètement, l'illumination et la contemplation de la lumière incréée. Donc, c'est un thème extrêmement fort de l'œuvre de Saint Grégoire Palamas et qu'on trouve dans le livre, d'ailleurs, dans les deux dernières homélies qui sont consacrées à la fête de la Transfiguration, donc qui, bien sûr, dont le thème principal est la vision de cette lumière. Donc voilà, pour résumer très vite cette espèce de trajectoire, si je puis dire, hein, de l'hésychia à l'illumination. Alors, ce qui est très intéressant dans ces homélies, c'est qu'en fait, certes, alors oui, pardon, j'ai pas dit une chose aussi, c'est que cette question de la vision de la lumière incréée a été très fortement remise en cause par des intellectuels de l'époque, hein, et que c'est là que Saint Grégoire Palamas est descendu de sa sainte montagne pour affronter effectivement des controverses en fait. Bon, pour défendre, alors pour lui, il s'agissait de défendre, et d'ailleurs il y a un très bel ouvrage de Saint Grégoire Palamas, La défense des saints hésychastes, qui avait été publié il y a bien longtemps par Jean Mayendorf, donc qui a été un des très grands spécialistes de Saint Grégoire Palamas. Voilà, et donc Saint-Grégoire Palamas est descendu du mont Athos pour la défense de ses frères, finalement, de ses moines, avec qui il partageait ces contenus-là d'expérience. Bon. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans les homélies, il n'y a pas de référence, ou très peu, il n'y a que dans deux, trois petits passages, à cet aspect de controverse, mais par contre, est omniprésente cette dimension du but de la vie chrétienne, qui est effectivement cette illumination, en fait.
Illumination, donc, c'est vraiment le mot qui est resté aussi pour le caractériser, lui. On va le voir dans le tropaire que l'Église a composé et qui chante en sa mémoire. C'est un saint, donc, il a été reconnu comme tel très vite après, grâce aussi au fait qu'un de ses disciples, Philothée Kokinos, est devenu patriarche de Constantinople. Donc, on peut toujours aller à Thessalonique, dans la cathédrale dédié à sa mémoire pour vénérer ses reliques, hein, au centre de Thessalonique. Alors on va entendre ce tropaire, voici le texte. « Luminaire de l'orthodoxie et docteur de l'Église, dont tu fus le ferme appui, ornement des saints moines et rempart invincible des théologiens, Saint Grégoire Thaumaturge, gloire de Thessalonique et de la grâce le héros, intercède auprès de Dieu pour le salut de nos âmes. » On l'entend par l'ensemble de Spiridon Peristeris.
Orthodoxia sophos dir, Ecclesia stos kyrigma kerti dascale, ton monaston ikaloni, ton theologon iberma,
et après le tropaire de Saint Grégoire Palamas, que chantait l'ensemble du Spiridon Peristeris, retour à notre entretien avec Jérôme Clerc, qui a traduit les homélies de Grégoire Palamas pour les 12 fêtes majeures de l'année. Alors Jérôme Clerc, maintenant, nous allons nous concentrer sur les textes pour avoir quelques petits extraits et peut-être un commentaire. Mais avant, je voudrais un commentaire général sur le style dans lequel ces textes sont écrits. Le fait aussi que ce sont des homélies, mais on voit qu'elles sont assez longues quand même.
Alors, elles sont assez longues. Même certaines sont très, très longues, puisqu'il y a une homélie, d'ailleurs, qui a été assez célèbre sur la présentation de la Vierge au Temple, qui, elle, je pense qu'elle fait 3 ou 4 fois la dimension des autres homélies, qui est un véritable traité, qui est d'ailleurs une de ses œuvres, des premiers textes qu'il ait écrit, quand il avait justement environ 40 ans. Donc, c'est sans doute pas une homélie au sens propre, c'est-à-dire que ça a été intégré en tant qu'homélie dans un recueil de textes, et pour comprendre un peu ça aussi, il faut savoir que les recueils d'homélies, les homélières, étaient un genre enfin très prisé à Byzance parce que ces textes circulaient et avaient un peu la fonction, on peut dire, de catéchèse finalement. C'est-à-dire que c'était un peu le catéchisme des gens. Bon. Or, de tous les homélières byzantins, il en reste très très peu. C'est-à-dire qu'après la prise de Constantinople, beaucoup de choses ont disparu, ont été détruites, et il nous reste très très peu de recueils de ce genre. Donc, en fait, celui de Saint Grégoire Palamas est extraordinaire, puisqu'il couvre toute l'année liturgique. On a presque tous les dimanches de l'année, en fait, hein, presque. Donc ça, c'est très précieux.
Donc des homélies qui parfois prennent les allures d'un petit traité. Et avec ça, on voit aussi le souci du docteur de l'Église, hein, qui, par sa pastorale, enseigne aussi ce qu'on appelle la dogmatique. Hein. Ça, il n'oublie jamais, on le voit très bien. Il prend soin de ça quand il s'adresse à ses fidèles. Alors, de ces textes, évidemment, nous ne pouvons pas tout voir. On va peut-être vous demander un petit commentaire sur ce qui concerne Noël, la nativité et le baptême, donc l'épiphanie, puisque à partir de demain, nous entrons dans la préparation des fêtes de fin d'année, comment dire, mais enfin, bon, le carême de Noël, comme on dit, et il y a plusieurs homélies qui sont consacrées. Et pour la préparation, il dit aux gens comment se préparer, il faut se confesser. Il donne des indications pratiques aussi à ses fidèles. Et puis il parle du dimanche des ancêtres, qui est le dimanche qui précède Noël. Alors peut-être avez-vous quelque chose de concret à nous proposer ?
Alors oui, donc j'ai pensé à quelques passages remarquables. Je voulais lire quelque chose avant même de parler vraiment de Noël, mais enfin c'est la fin de l'homélie en fait. Donc je voulais lire un passage pour un peu confirmer ce que je disais tout à l'heure sur cette avancée vers l'illumination. Donc je voulais juste donner un exemple de ce qu'on peut appeler la fin, enfin c'est l'exorde, hein, c'est le moment de la fin de l'homélie. Donc voilà ce qu'il a parlé de l'unité et il dit « Préservons donc cette unité avec Dieu et entre nous, réalisée en nous par les décrets de l'amour. » Regardons toujours vers notre Père Céleste, laissons la terre car nous sommes des êtres non plus terrestres issus de la terre comme le premier homme, mais issus du ciel comme le deuxième homme, le Seigneur. Élevons nos cœurs vers lui, contemplons cette grande vision de notre nature vivant éternellement avec le feu immatériel de la divinité et déposant nos tuniques de peau que nous avions revêtues à cause de la chute, tenons-nous sur une terre sainte. Chacun montrant que sa terre est sainte par sa vertu et par sa volonté inlassable d'être uni à Dieu. De la sorte, nous aurons l'audace de courir vers le Dieu qui nous visite dans le feu, afin d'être illuminés, et une fois illuminés, nous partagerons sa vie pour l'éternité dans la gloire de cette lumière sublime, splendeur du triple soleil et de l'unique souveraineté. » Donc voilà, c'est pour donner une idée du niveau auquel Palamas invite ses fidèles à accéder finalement. Et je trouve ça absolument magnifique, cette fin d'homélie qui passe par le feu immatériel et qui finit dans cette contemplation de la lumière créée. Voilà.
Ça, alors c'est un justement, exemple. Ce niveau-là, est-ce que vous pensez que ces homélies ont vraiment été prononcées dans l'Église ou ce sont des petits traités écrits après ou des textes peut-être retravaillés ?
Alors, visiblement, oui, beaucoup ont été vraiment prêchés. Alors, comment c'était fait ? Je suppose que, bien sûr, qu'il prêchait, lui, tous les dimanches et même aux matines et à la liturgie, etc. Mais et qu'il a consigné par écrit sur chacune des fêtes ou d'autres moments de l'année, il a consigné par écrit ce qui devait lui sembler, justement, le texte à laisser à une postérité qui pourrait s'intéresser, justement, ou qui aurait besoin d'être enseignée ensuite par l'écrit, en fait. Je pense que c'est ça. Alors, évidemment, tout n'est pas exprimé tel quel. Maintenant, on a aussi dans les homélies des indices de son auditoire, c'est-à-dire que parfois il s'adresse à des femmes parce qu'il a fait son homélie dans un monastère de femmes. Certaines homélies s'adressent à ses frères, je pense que c'est vraiment des homélies du moitos, ça. Bon, mais sinon, d'ailleurs on l'entend bien quand il évoque un petit peu le peuple qui est présent là, et on voit bien qu'il s'adresse aussi aux simples fidèles, en fait, hein, tout simplement, des gens qui venaient à l'Église, pas seulement des moines ou des contemplatifs.
Merci. Et donc, peut-être pour terminer, un autre extrait. En préparant cette émission, vous m'aviez dit, l'homélie sur la Samaritaine est extraordinaire, il y a un élan lyrique très fort. Et en fait, quand on lit ça, on est tout à fait emballé par ce côté presque littéraire, je dirais, du texte, quoique, évidemment, le côté toujours dogmatique, le côté pastoral aussi, évidemment, sont très évidents. Hein.
Des élans lyriques, il y en a plusieurs dans le cours des homélies, et c'est vrai que particulièrement, bon, dans les homélies mariales, alors là, Saint Grégoire est très lyrique, j'étais très touché par cette homélie sur la Samaritaine, parce qu'il y a une mise en scène du dialogue qui est très belle. Donc là, je ne peux pas lire tout, parce que ce sera mes collecteurs de découvrir ce texte. Et ensuite, c'est une image étonnante En fait, il fait référence au Cantique des Cantiques, donc c'est ce passage-là que je voulais lire, plus que l'aspect dogmatique, hein, parce que si vous voulez des passages dogmatiques, je peux vous en sortir beaucoup, mais là, je trouvais que ce qui était touchant, c'était cette dimension, la Samaritaine devient l'épouse du Cantique, ce qui est quand même très fort. Alors oui, donc Saint-Grégoire ne cesse d'admirer le très haut niveau spirituel de la Samaritaine, qui toujours, en fait, il montre comment à chacune de ses répliques, elle monte d'un degré, si on veut. Donc voilà ce qu'il dit. « Comment pouvait-elle connaître cela avec tant de certitude et de fermeté, ou avoir une telle disposition de l'âme, si elle n'avait médité avec intelligence et précision les livres prophétiques ?» C'est pourquoi elle avait l'esprit occupé à des sujets si élevés et pleins de divine inspiration. Quand je regarde avec admiration le désir inspiré et fort qui l'attache au Christ, il me vient à nouveau ce mot du Cantique. Qui est celle-ci qui se montre dès le matin, belle comme la lune et choisie comme le soleil? Car quand elle annonce que d'ici peu va apparaître le Christ, soleil spirituel de justice, et qu'elle révèle qu'avec elle l'Église des nations trouve son origine, je la vois comme si elle sortait des fonds baptismaux de ce puits auprès duquel elle se tenait, ayant reçu l'instruction du Sauveur. Je la vois apparaître comme le matin bien-aimé. Elle est belle comme la lune, car elle brillait quand la nuit de l'impiété régnait encore. Elle est choisie comme le soleil, car le Seigneur lui donna le nom de Fotini, et elle rejoignit la liste de ceux qui devaient briller comme le soleil, selon l'Évangile. Donc voilà un exemple de ce lyrisme et d'un style évidemment très accompli aussi de notre auteur.
Et avec ça, on découvre un Palamas un peu différent de ce qu'on connaissait jusqu'à présent, enfin un grand dogmaticien.
Mais oui, c'est ça. Et en plus, alors évidemment, quand je lisais, étant jeune, je lisais Olivier Clément qui parlait de l'éros divin ou de l'éros mystique, c'est extraordinaire comme ce mot éros, par exemple, est présent pour expliquer, la rencontre de la Vierge et du Christ, c'est dans les termes de l'éros. Pareil pour la Samaritaine, par exemple.
Donc une facette, un très grand auteur à découvrir, avec ce livre qui est en fait la base de la catéchèse pour l'année. Hein. Il faut le voir aussi comme ça. Donc,
oui, ce qui est très commode, c'est que les gens peuvent avoir le livre et le lire par petits bouts, finalement, tout au long de l'année.
Fonction des fêtes, oui,
voilà,
c'est ça.
Tout au long de l'année.
Donc j'invite nos auditeurs à commencer évidemment par ce qui concerne Noël et les préparations de Noël, puisque c'est la fête qui va arriver maintenant dans 40 jours. Jérôme Clerc, merci. Je rappelle le titre de l'ouvrage qui vient de paraître, Saint Grégoire Palamas, Homélie, le cycle des 12 fêtes majeures, aux éditions Lit et Parle, 2021. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Olivier Dupré. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr, ainsi que sur l'application Radio France. Et voici maintenant Solae, le rendez-vous protestant, par Jean-Luc Gadreau.